Vous êtes sur RTL. Jusqu'à minuit 30, parlons-nous. Caroline Dublanche sur RTL.
Bonsoir, c'est Caroline Dublanche, très heureuse de vous retrouver pour Parlons-nous, un espace de dialogue pour vous confier, pour exprimer vos doutes, vos chagrins, vos peurs, vos peines, vos espérances. Jusqu'à minuit et demi, l'antenne d'RTL est à vous, tous vos appels sont les bienvenus au 09 69 39 10 11. C'est Sarah et Paul qui vont s'occuper de vous et vous guider jusqu'à l'antenne sous le regard complice de Marc Bisset à la réalisation de l'émission. Et si vous désirez vous joindre à nos échanges, vous êtes les bienvenus à tout moment. Vous pouvez nous envoyer un petit SMS au 64 900 en commençant votre message par les trois lettres RTL. 35 centimes par SMS. On lit aussi les commentaires que vous nous laissez sur la page Facebook RTL-parlons-nous. Puis le plus simple, c'est encore un petit coup de fil. Non surtaxé, 09 69 39 10 11, c'est le standard de Parlons-nous. Bonsoir Cécile.
Bonsoir Caroline.
Bonsoir et bienvenue.
Merci, c'est gentil, merci de m'avoir appelé.
Alors Cécile, vous... de quoi voulez-vous me parler ce soir?
Ben, je voudrais vous parler de ma maman qui est âgée, elle a 81 ans.
D'accord.
Et alors, je me suis toujours occupée beaucoup d'elle.
Oui.
Mais ici, ça fait 10 ans, je suis en arrêt, je suis en maladie, j'ai la fibromyalgie. D'accord. Et je suis suivie par un rhumatologue pour de l'arthrite psoriasique.
Oh là là. Oui. Ça doit être douloureux, et, ça.
Oui, douloureux. Et alors, ben, beaucoup de fatigue.
Oui, oui.
Ça fait que, ben voilà, moi, ce qui me chagrine beaucoup, je culpabilise, ben voilà, parce que comme j'ai toujours eu l'habitude de m'occuper de ma maman depuis mes 20 ans.
Ah oui?
Oui, oui, je me suis toujours occupée de ma maman.
Et pourquoi elle était souffrante? Ben parce que non, là, elle est âgée, mais quand vous aviez 20 ans?
Oui, mes parents sont séparés.
Oui.
Que j'avais 18 ans.
Et alors?
Comme j'étais l'aînée des filles, oui. C'est moi qui me suis toujours occupée pour les papiers.
Elle ne savait pas s'occuper de tout ce qui était administratif?
Non, non, parce qu'elle ne sait pas écrire.
Ah oui, d'accord.
Elle sait lire, mais ne sait pas écrire, ma maman.
D'accord, oui, je comprends.
Oui.
D'accord, donc vous lui faisiez tous ses papiers, en fait?
Voilà, oui. Oui. Et alors, j'avais un frère aîné qui s'est tué dans un accident de voiture.
Ah oui, c'est terrible. Et alors, jeune, donc.
Oui, il avait 22 ans, il était 2 ans plus âgé que moi.
Oui, oui.
Mais voilà, alors, comme j'étais l'aîné, je me suis toujours occupée de nos études.
L'aîné des filles.
L'aîné des filles, oui, c'est ça.
5 enfants, vous êtes 5 enfants.
5 enfants, oui, d'accord. Oui. On était 6 avec mon frère.
Oui,
donc.
Oui, oui.
Et alors, on est 5 enfants, mais comme j'étais l'aînée des filles, je m'en suis toujours occupée pour les papiers, pour faire les courses.
Oui.
Et voilà, ça fait que maintenant, ma maman, elle me reproche que je n'y vais plus. Assez souvent, je devrais être là plus souvent près d'elle pour parler, mais je n'ai pas beaucoup de temps.
Oui, mais vous êtes fatiguée, vous aussi.
Oui, voilà, mais ça, je ne sais pas si elle le comprend.
Vous lui dites quand même que...
Je lui ai déjà dit la dernière fois ici, le samedi, on a eu une conversation un peu plus, comment je vais dire, sérieuse, parce que... Ben, jusque-là, je n'osais rien lui dire, mais elle m'a dit que moi, j'avais la fibromyalgie, mais elle avait du diabète. Donc, ça revenait à la
même
chose.
Oui, mais enfin, on ne va pas faire finalement à celle qui aura le plus, vous voyez. C'est... Ça veut dire qu'elle n'entend pas, au fond, que... Vous ne pouvez pas toujours non plus... Finalement, vous me dites que vous vous êtes toujours beaucoup occupée d'elle, Cécile, depuis l'âge de vos 20 ans. Mais au fond, elle ne, enfin, c'est devenu une habitude pour elle. Et c'est normal, quoi. Elle n'en est pas reconnaissante. Elle ne voit pas, au fond, toute l'attention, tout le dévouement que vous avez pour elle. Elle voit surtout ce que vous ne pouvez plus aujourd'hui ou moins lui apporter.
Oui, c'est ça, j'ai dit. Oui, c'est terrible. Mais...
Si vous êtes, parce que vous êtes 5 filles, donc c'est ça. Il y avait 3
filles de garçons.
3 filles de garçons. Bon, est-ce que vos sœurs et frères ne pourraient pas un peu prendre le relais?
Écoutez, Caroline, j'ai une de mes sœurs qui est veuve depuis 3 ans, elle était mariée 30 ans. Et ici, elle habite au coin de la rue de maman. Mais
alors.
Elle ne s'en occupe pas plus.
Oui. Bon. Vous lui avez dit vous lui avez demandé si elle ne pouvait pas un peu vous soulager et prendre le relais auprès de votre mère?
Ben voilà, qu'est-ce que j'ai eu comme réponse? Elle a rencontré quelqu'un ici.
D'accord.
Et elle m'a répondu. Quand est-ce que je vais me laisser tranquille?
Votre sœur vous a répondu cela?
Ma sœur m'a répondu cela, oui. Comme je ne suis pas... j'aime pas de répondre, j'ai pas de méchanceté ni rien, j'ai dit amen.
Oui. Et vous êtes mariée, vous?
J'ai été mariée, j'ai une fille de 32 ans.
D'accord.
D'un premier mariage.
Oui.
Mais alors... si vous voulez, avec son papa, ça s'est terminé suite, j'ai subi une IVG.
Mm-hmm.
Et alors, après ça, le couple
ça a détruit votre couple.
D'accord. Oui, voilà, oui.
Oui.
Mais déjà avant ça, lors de mon premier mariage, une fois, j'étais sur la rue, je pleurais, je crois que... À mon avis, j'avais déjà beaucoup de tracas avec ma maman, plus mes petits frères et mes petites sœurs qui sont plus jeunes que moi.
Mmh.
Et une fois, j'ai rencontré ma sœur et elle me dit « Mais pourquoi Cécile, tu pleurais ainsi ?» Puis je lui ai expliqué que ma maman était tous les jours à la maison, que mon mari commençait à en avoir marre chaque fois qu'il rentrait de son travail, qu'elle était là.
Ah bon, elle venait tous les jours?
Tous les jours, oui. J'étais à peine levée, elle arrivait.
Mais pourquoi elle venait comme ça?
Près de ma petite fille, elle me disait.
Oui, qu'est-ce qu'elle vous disait?
Elle disait qu'elle aimait bien de venir voir sa petite fille.
Je comprends que pour votre mari, ça soit un peu lourd.
Je sais, en plus, c'était quand il rentrait à 4h30 de son travail, elle était là.
Ah oui, donc elle passait la journée.
Voilà, oui, carrément. Oui, elle est arrivée sur les coups d'11h et elle repartait à 16h30 quand mon mari arrivait. Elle était encore là.
Comment vous le viviez, vous, jeune femme, jeune maman? Comment?
Je ne vivais pas bien. Je me disais, en me réveillant le matin, je me disais, j'espère qu'elle ne va pas encore se pointer aujourd'hui.
C'est lourd, oui. Qu'est-ce que c'était lourd.
Vous
envahissait. Oui.
Oui. Mais alors
que vous étiez jeune femme en train de construire votre vie, d'être en couple, d'avoir un bébé, non, que votre petite fille.
C'est ça, oui.
Et finalement, votre mère, elle a tout le temps. Vous l'avez toujours porté à bout de bras, quoi.
Voilà, c'est ça, oui, Caroline. Vous trouvez les mots exacts, c'est ça.
Oui, vous l'avez porté littéralement. À un âge où elle n'avait pas de... Bon, vous me dites, elle s'est séparée de votre père. Ce sont des choses qui arrivent.
Oui.
Mais à un âge où elle n'était pas malade, elle n'avait pas de problèmes particuliers, où elle était encore, je fais un calcul rapide, elle avait une cinquantaine d'années. Donc à un âge où on est encore en forme, dynamique. Finalement, elle s'est raccrochée à vous comme si c'était elle, l'enfant, et vous, la mère.
Voilà, mais alors moi, je n'osais trop rien dire parce que
j'entends.
Je me disais... Comme mon frère, elle venait de perdre mon frère, je ne voulais pas lui causer plus de peine.
Oui, je comprends. Mais vous êtes très gentille, vous.
Oui.
Et Louis, oui, vous êtes très gentil, vous n'avez pas une once d'agressivité, et finalement, non, vous avez du mal à vous protéger, au fond, de,
c'est ça,
de cette mère très... Oui, vous ne savez pas vous protéger.
Je ne sais pas me protéger, et alors, j'étais partie sûrement promener ma petite fille quand j'ai rencontré ma sœur. Je pleurais, elle me dit qu'est-ce qu'il y a, c'est le temps en larmes. Alors je lui explique, mais elle me dit, n'ose pas le dire à maman. J'ai dit, non, je n'ose pas lui dire. Et alors ma sœur me propose à ce moment-là, elle me dit, je vais lui dire. Vous savez que ma maman lui a répondu.
Non.
Alors, je vais encore bien le faire exprès.
Votre mère lui a dit, je vais le faire exprès de quoi de...
Je vais continuer à y aller, je ferai encore bien exprès.
C'est méchant.
Parce que mon mari n'était pas content.
Oh, c'est méchant, oui, c'est agressif, c'est méchant. En tout cas. Oui, oui comme mais... si elle jalousait à ce moment-là un peu votre vie. Votre jeunesse, le fait que vous vous installiez en couple, que vous ayez une petite fille, au moment, alors, elle, vous me dites, je comprends, vous ne vouliez pas l'accabler parce que elle venait de perdre un fils dans des circonstances tragiques, bon, un jeune homme de 22 ans, accident de voiture, c'est terrible, effectivement. Mais vous, vous veniez de perdre votre frère aussi.
Aussi, oui.
Et puis là, dire je vais le faire exprès, donc elle se rendait bien compte qu'elle pouvait, elle aurait pu être un obstacle à votre couple. Parce que votre mari aurait pu vraiment en avoir marre d'avoir sa belle-mère comme ça tous les jours.
Il en avait marre.
Ben oui, c'est compréhensible.
Et alors, Caroline, alors à l'époque. Il m'a dit, si tu ne prends pas une décision, si tu ne lui dis pas qu'elle doit se passer ce rendez-vous, moi, je vais le faire à ta place et je n'osais pas le faire. Et un jour, il s'est amené, il est sorti sur le pas de la porte, il lui a dit.
Il lui a dit, oui.
Il lui a fait la commission en disant qu'il ne fallait pas...
C'est bien qu'il lui ait dit. Et comment a-t-elle réagi?
Ah, elle n'était pas contente.
Oui, d'accord. Mais est-ce qu'elle est revenue après aussi souvent?
Non, elle ne l'a plus fait.
Il a bien agi, votre mari, parce qu'il sentait bien que vous n'étiez pas en mesure de, au fond, vous opposer à votre mère.
Oui. Mais alors, moi, comme vous le dites, je suis gentille. Oui. Je me disais, je pensais que mon mari n'aimait pas ma maman et c'était pour ça qu'il lui interdisait de venir. Oui. Moi, j'ai pensé ça.
Oui, vous lui en avez voulu à lui, un peu, finalement.
Un peu, oui, je lui en ai voulu un peu, mais malgré tout, nous sommes restés
ensemble
jusqu'à quand, j'ai subi une IVG, on m'avait proposé de m'aider, j'ai pas voulu à l'hôpital.
Oui, mais voilà, c'est dommage.
C'est dommage.
Oui.
Maintenant, avec le recul, je me dis, j'aurais dû...
Oui, bon, mais bien sûr. Mais et oui, est-ce que... Parce que finalement, pour vous, c'est... Il semblerait que cette relation, elle existe depuis très longtemps avec votre mère, et peut-être même avant la séparation et avant le décès de votre frère. Parce finalement, vous étiez certainement une enfant très docile. Très douce déjà, très... Et votre mère semble avoir, et toujours aujourd'hui, beaucoup d'ascendant, d'autorité sur lui, sur vous. Vous avez du mal à vous... à mettre de la distance, à un moment.
Ah oui. Et alors, jamais un mot de travers de ma part, quand je vois mes frères qui peuvent le dire parfois, moi jamais...
Comment vous... Pourquoi, finalement, qu'est-ce qui, selon vous, fait que vous avez tant de mal à, au fond, vous affirmer par rapport à elle, même plus jeune? Pourquoi elle a eu tant d'autorité sur vous? Au-delà du chagrin que vous pouviez ressentir par rapport à elle, parce que vous avez beaucoup d'empathie. Mais qu'est-ce qui fait qu'à un moment, vous savez, quand on démarre dans la vie, enfin, il y a un âge où, même si on aime ses parents, on prend un peu de distance, ou géographiquement, ou un peu psychiquement, parce qu'on a sa vie à construire. C'est-à-dire que vous-même étiez maman. Mais c'est comme si vous étiez restée toujours en position d'enfant vis-à-vis d'elle. Qu'elle avait toujours beaucoup de pouvoir sur vous.
Oui, ben c'est parce que je crois que à cause de l'accident de mon frère et la séparation de mes parents, je me suis dit... Parce qu'elle nous disait, heureusement, que j'étais là pour vous donner à manger, parce que votre papa, ben, il ne travaillait pas.
Ah bon? Qu'il avait? Pourquoi il ne travaillait pas?
Ben, écoutez, Caroline, c'est avec le recul aussi, quand je réfléchis. Ben, je pense que mon papa avait des gros problèmes de santé aussi.
De santé ou psychologique?
De santé. Parce que... Quand je vois des photos, je pense à lui, je le vois là qu'il est dans son fauteuil en train de dormir, ou je n'ai jamais connu aller travailler. Oui. Et ben, quand ma maman m'en parle, elle dit ben voilà, qu'il n'a jamais beaucoup travaillé, mais elle ne nous expliquait pas ça en nous disant c'est parce qu'il était malade, elle était de fainéante, paresseuse.
Ah oui.
Oui, donc...
Donc c'était, en fait, votre mère, c'était aussi... c'était elle qui menait tout dans la maison.
Voilà,
votre
oui.
Votre père,
oui,
il était là, mais complètement effacé.
Voilà, oui.
Parce que votre mère, sous ses allures... Alors, certes, elle, sous ses allures comme ça... bon, aujourd'hui, c'est une dame âgée, mais elle a un côté très autoritaire. Elle avait un côté très autoritaire.
Très autoritaire, oui.
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 Et finalement, alors vous êtes resté aussi, vous étiez en position d'aîné au décès de votre frère, et comme si c'était vous qui deviez la prendre en charge, alors qu'il y avait quand même vous restiez 5 enfants et ça aurait pu un peu se répartir.
Oui, mais ben moi aussi j'ai pris la place de mon frère parce qu'elle disait à l'époque si ton frère était là ça ne se passerait pas, parce que j'ai deux petits frères, donc il y a une grosse distance, il y a une grosse tranche d'âge.
Oui, mais enfin c'est terrible parce que vous étiez là, vous étiez extrêmement attentionné pour elle, et au fond oui vous étiez là, mais ça aurait été mieux si votre frère avait été là. Enfin, vous étiez jamais reconnu pour ce que vous étiez, vous, et encore aujourd'hui pour ce que vous lui apportez. Elle vous reproche ce que vous ne pouvez plus faire, mais sans voir ou vouloir voir tout ce que vous avez fait pour elle.
Oui, Caroline, c'est ça.
Je vois sur votre petite fiche qu'à un moment, vous partiez même plus en vacances.
Non, je n'osais plus parce que j'avais l'impression de l'abandonner.
Oui, mais ça va pas.
Je ne sais pas, je n'arrive pas.
Mais c'est un lien de dépendance dont vous me parlez, là. Vous voyez, on est au-delà de l'amour, c'est de la dépendance, là.
Oui,
c'est comme si, en fait, il y a des parents qui s'arrangent un peu, consciemment ou inconsciemment, pour être à charge de leurs enfants, tout le temps. Alors, sous des prétextes divers et variés. Mais qui font en sorte, finalement, de ne jamais accéder à une autonomie financière ou psychique. Et alors, ça ne s'arrange pas, évidemment, avec l'âge. Parce que quand ils vieillissent, c'est comme si, au fond, ils sont dans une plainte où ils reprochent à leurs enfants, eux, d'être jeunes, encore de ne pas avoir de problèmes de santé. Mais finalement, c'est la vie. C'est eux aussi ont eu cet âge-là à un moment donné et pouvaient faire face. Mais là, il y a un lien d'extrême dépendance. Et finalement, dans ce que j'entends, c'est que vous avez du mal à mettre de la distance, à vous protéger. Vous êtes dans une forme de soumission à votre mère, mais votre corps, lui... lui, il n'en peut plus. Il s'exprime, corps. Il n'en peut plus, lui. Vous, c'est la fibromyalgie, c'est de l'arthrite psoriasique, c'est de tous les côtés, il crie, lui, qu'il n'en peut plus.
Oui, voilà, Caroline...
Ce que vous n'osez pas dire ou ce que vous ne pouvez pas dire avec des mots, votre corps l'exprime, Cécile.
Oui.
cette fibromyalgie, elle dit quelque chose de vous, de quelque chose qui est trop lourd à porter et que vous n'auriez pas dû porter seule.
Ah, c'est ça.
Vous parlez de votre mère comme si votre mère était avant même qu'elle devienne, bon, aujourd'hui elle a 81 ans, mais en fait c'est des rapports complètement inversés. C'est comme si c'est, votre mère, elle venait chez vous parce qu'elle n'a pas fait en sorte de, au fond, donner un sens à sa vie un peu en dehors. Alors, oui. Les papiers ont eu bon dos, c'est-à-dire que vous l'aidiez déjà sur le plan administratif, bon, c'est une chose, puisqu'elle ne savait pas écrire. Mais qu'elle soit comme ça tous les jours chez vous, enfin, elle se rendait bien compte qu'à un moment, c'est vous empêcher de vivre. C'est de l'égoïsme.
Oui, mon mari me le répétait sans cesse.
Mais oui, mais c'est de l'égoïsme.
Oui, tout ce que vous me dites là, il me le disait, j'ai pas voulu, je voulais pas le croire à l'époque.
Oui, mais c'est ça, c'est-à-dire que au fond, vous êtes désarmée face à votre mère.
Oui.
On vous sent désarmée. Et est-ce que vous l'êtes de façon générale dans vos relations? Vous dites, au fond, vous avez du mal à dire, au fond, à mettre des limites, à dire stop. Vous vous laissez envahir.
J'ai difficile à dire stop.
Oui, à mettre des limites, à dire je suis fatiguée. Et voyez, c'est votre corps qui le dit. Votre corps, à un moment, il dit j'en peux plus, quoi.
Il me faut longtemps pour moi réagir.
Oui.
Pour dire stop, oui.
Aujourd'hui, vous vivez seule ?
Non, j'ai mon compagnon.
Ah, vous avez votre compagnon, c'est
oui,
bien.
Oui, oui.
Qu'est-ce qu'il en pense, lui, aujourd'hui, de ça, de cette relation avec votre mère?
Il me dit que... qu'elle exagérait un peu.
Ben, oui.
Qu'il y a des distances aussi, c'est maintenant.
Oui.
Parce que, si vous voulez, Caroline, avant de me marier, donc, à ce moment-là, j'avais fini mes études. Et alors, ma maman, tous les jours, elle allait chez sa maman, elle, donc chez ma grand-mère maternelle.
D'accord.
Tous les jours. Et alors, quand elle rentrait, ben, la popote était déjà en route, je faisais le soupir.
Ah.
Quand elle rentrait.
Mais alors, attendez, ça c'est intéressant, parce que finalement, elle allait déjà, elle, en tant que fille, voir sa mère, donc votre grand-mère maternelle.
Voilà, alors maintenant, elle me reproche qu'elle s'est beaucoup occupée de ses parents.
Ah ben oui, mais pendant que vous vous occupiez de la maison, et puis finalement, comme vous dites, c'est vous qui faisiez la popote, elle rentrait, elle trouvait tout prêt.
Oui.
Elle est restée, votre mère, toujours, vous voyez, elle disait qu'elle allait s'occuper de sa mère, votre grand-mère, mais ça se trouve, elle avait besoin d'elle, elle n'arrivait pas à se séparer d'elle, déjà.
Déjà, oui. Par exemple, quand ma grand-mère était hospitalisée à ce temps-là, tous les jours, ils allaient à l'hôpital. Mais alors, quand ma maman ne savait pas conduire, elle a toujours travaillé, toujours fait des ménages.
D'accord.
Mais elle n'avait pas son permis de conduire. Donc, c'était sa sœur, son mari, enfin, mon oncle qui conduisait.
Oui.
Il venait la chercher. Alors, quand il repassait de l'hôpital, il déposait ma maman, il rentrait un peu. Et alors, un jour, je me rappelle que sa sœur lui a dit « Tu as de la chance, et s'il fait, prépare déjà ton souper », elle n'a rien répondu.
Oui, non, mais elle se fait prendre en charge de bout en bout, hein, votre mère. Et vous, vous êtes à bout.
Oui, je suis à bout, oui. Samedi, j'ai pleuré toute l'après-midi. Bon,
mais parce que vous me semblez très déprimée aussi, hein.
Oui, pourtant, je suis...
Suivie.
Je suis suivie par mon médecin généraliste.
Alors, de quelle façon?
Ben, il me prescrit des antidépresseurs.
Depuis longtemps?
Ben surtout depuis j'ai commencé la fibromyalgie, donc il y a 10 ans.
Oui, mais il n'y a pas d'amélioration.
Et alors, ben à l'époque, quand ça s'est mal passé, là, donc j'étais encore avec mon premier mari, ben là aussi j'étais suivie pour dépression.
Mais dites-moi, Alors, oui, vous êtes suivie en prenant donc un traitement d'antidépresseur.
Mais, voilà, oui, oui.
Vous savez, vous m'appelez ce soir pour parler. C'est que vous ressentez, oui, le besoin de parler de cette relation.
Ça fait longtemps, Caroline, que je vais vous parler parce que je vous écoute tous les jours et je trouve que vous arrivez toujours à trouver ce qui ne va pas.
Mais vous le savez, au fond, ce qui ne va pas, non ?
Maintenant, avec beaucoup de recul, oui.
Oui, mais c'est comme... Et malgré tout, vous êtes empli de culpabilité.
Oui,
alors que finalement, d'une certaine façon, vous sacrifiez, et depuis longtemps, votre vie pour vous occuper de votre mère. Alors, prendre soin de ses parents, ça relève, enfin, comment dire, c'est normal, quand ils ont pris soin de nous, et c'est normal dans le grand âge, de veiller sur eux, de faire en sorte d'être présent. Mais moi, ce que j'entends, oui, mais là où il y a quelque chose qui est bien au-delà de cela dans la relation dont vous me parlez, c'est que, au fond, votre mère n'a pas accepté que vous preniez votre envol. Elle s'est littéralement accrochée à vous, presque vous empêchant. Et je me demande comment vous avez trouvé la force de rencontrer quelqu'un et quand même de devenir maman à votre tour. Et finalement, vous voyez, vous me parlez de votre mère, mais au fond, vous avez une fille qui a 30 ans. Je ne sais pas quel lien vous avez avec elle, si vous êtes grand-mère.
Oui. Je vais être grand-mère, oui.
Oui. Vous allez être grand-mère.
Je vais être grand-mère.
C'est formidable,
bientôt.
C'est pour quand, ça?
Oui, le mois de janvier.
Oh là là, oui, c'est bientôt, oui. Ça. Bon.
Et alors, ben, moi aussi, j'aime bien m'occuper de mes enfants,
oui,
parce que ma fille, elle a besoin de repos.
Oui.
Et alors, quand moi, je suis bien, parce qu'ici, ben, mon compagnon, le papa de mon garçon, donc ça fait 20 ans qu'on est ensemble, il m'aide quand même dans la maison. Mais alors, quand je suis bien, oui, ça me fait plaisir d'aller aider ma fille.
Mais
je me rends utile.
Oui, mais Cécile, il va falloir que vous soyez utile pour vous-même. Parce que ça suffit, là. Enfin, pour votre fille, c'est normal. Là, si ça vous fait du bien, et là, comme elle est enceinte, que vous alliez l'aider, et après, quand le bébé naîtra, c'est bien. Mais là, à un moment, il va falloir vous occuper de vous. Ça commence à bien faire, là. Vous voyez, parce que vous, je ne sais pas quel âge vous avez d'ailleurs.
58.
Vous vous rendez compte? Vous avez passé votre vie à vous occuper de votre mère. Donc, votre mère, elle n'a pas fait en sorte... Est-ce qu'elle prend des antidépresseurs, elle, votre mère?
Oui, depuis longtemps aussi.
Oui. Bah, écoutez, le problème, c'est qu'à un moment, il va falloir... je pense qu'il est important que vous parliez, que vous ayez... En plus de ces médicaments, parce que vous savez, on peut toute sa vie avaler des antidépresseurs. Mais si au fond, on ne change pas le nœud du problème, rien ne changera. Et le nœud du problème, il est dans la relation avec votre mère, où il y a une trop forte dépendance. Alors, vous n'en êtes pas à l'origine. Un enfant n'est jamais à l'origine du lien qui se construit avec son parent. Mais en revanche, en grandissant, il est important de se pencher sur ce lien quand il est source de souffrance. Et ce lien, il est source de souffrance. Parce que les symptômes dont vous me parlez montrent qu'il y a une souffrance chez vous. Et morale et physique. Et il serait temps de vous en occuper. Vraiment. C'est ce que dit une auditrice, c'est Fabienne, qui dit « Construire votre vie, votre bonheur, c'est une priorité absolue, Cécile. Et arrêtez de jouer Cosette. » Parce que là, c'est un peu ça, vous êtes en train de me dire. Au fond, vous sacrifiez votre vie personnelle. Est-ce que vous imaginez, alors que votre fille, là, elle va être maman, donc elle est en couple, j'imagine?
Oui.
Vous imaginez, là, aller chez elle tous les jours, débarquer le matin, repartir comme ça le soir, et être toujours là, entre elle et le mari, et... Est-ce que vous l'auriez fait, vous, ça?
Oh non.
Vous voyez,
jamais,
donc
non.
Vous respectez la vie de votre fille, vous aimez votre fille, mais pour autant, vous comprenez qu'elle ait besoin d'un espace à elle, d'une vie de jeune femme, bientôt future maman, là où votre mère, elle a pas... acceptez ça. Votre mère, vous êtes là pour elle. C'est comme si vous étiez sa chose.
Oui.
Vous étiez là pour vous occuper d'elle. Donc finalement, on n'est pas dans l'amour maternel là. On est dans l'égoïsme pur et dur, qui a certainement trait à son histoire à elle. Vous me dites que fille, elle passait sa journée chez sa mère aussi. Donc finalement, les mères et les filles, elles peuvent pas se décoller. Elles forment des couples où on est dans une fusion qui devient complètement mortifère, où on peut plus exister. Et si on tente un petit peu de se détacher, ben vous êtes la vilaine fille ingrate qui ne s'occupe pas d'elle.
Voilà.
Donc à un moment, il va falloir que l'on vous aide, Cécile, à prendre une distance psychique avec votre mère. C'est absolument nécessaire. Absolument nécessaire. Et je sais que vous avez commencé, je vois sur votre petite fiche, vous avez senti qu'il y avait besoin de parler, à aller voir un psychothérapeute, je crois, avec qui vous avez eu 3 séances, c'est ça ?
Oui, oui.
Pourquoi vous n'avez pas continué ? Pourquoi vous n'avez pas continué ?
Parce que la première fois déjà, quand j'avais mis mon GSM en silencieux, quand je suis sortie... Ben, ma séance, ma maman m'avait déjà appelée, donc...
Vous la laissez appeler encore... vous la laissez appeler, votre mère. Vous lui avez dit que vous commencez une thérapie ?
J'ai pas osé.
Ben, il vaut mieux ne pas lui en parler, vous avez raison, parce qu'elle va très mal le vivre. Elle va pas supporter qu'il y ait une tierce personne entre vous et elle. Pas plus qu'elle ne supportait votre mari. Donc, à un moment, vous voyez au point où vous en êtes, c'est-à-dire que vous vous dévouez corps et âme, depuis des années à votre mère, et vous vous négligez complètement. Complètement. Et finalement, votre corps, il appelle au secours depuis des années, en disant « occupe-toi de toi ». C'est ce qu'il est en train de vous dire, votre corps. Et vous, finalement, il faudrait maintenant que vous soyez une bonne mère pour vous-même, et que vous vous occupiez avec autant de dévouement, autant de tendresse, autant de patience de vous-même que vous vous occupez de votre mère. Votre mère, elle n'est pas hospitalisée avec une perfusion dans le bras, elle n'est pas au bout de sa vie. Donc, en revanche, vous, vous êtes épuisée, et physiquement et moralement. Donc là, ça suffit. C'est de la non-assistance à personne en danger pour vous-même. Donc, vous vous devez de vous occuper de vous-même, Cécile.
Merci.
Ah oui, il est temps de réagir. Est-ce que j'imagine que ça fait réagir, Paul, sur notre page Facebook, là, les auditeurs qui écoutent Cécile, qu'on sent exsangue, épuisée.
Et les messages ont tous à peu près la même teneur. Il y a Cécile, justement, qui parle à Cécile. Cécile doit apprendre à dire non, même si dire non à sa mère. Parfois, c'est les parents peuvent se montrer envahissants, peuvent rendre malade l'enfant.
Tyrannique.
Accueillant le parent. Stop, Cécile. Pour votre bien-être physique, mental, vous devez arrêter cette dépendance à votre mère. Il y a France, qui aime beaucoup votre accent belge, a priori, a priori dit France. Cécile, je crois, a besoin de voir un psy. Et ce ne sont pas les médicaments seuls qui vont l'aider dans ce cas-là, comme le précise Caroline. Il faut qu'elle prenne soin, enfin, d'elle. Il faut qu'elle continue cette thérapie. Il y a le valet de cœur aussi qui dit « J'entends énormément ma maman, ma maman. » Il y a un lien fort d'appartenance, presque de possession dans ces mots, comme si le lien mère-fille était inversé. Il vous faut vous libérer de cette emprise pour vivre enfin votre propre vie de femme. De l'emprise, il y en a, c'est ce que dit aussi Philippe. Et l'emprise, c'est terrible. Mais ça fait un tel bien quand on arrive à s'en dépêtrer.
Oui, non, mais l'amour maternel, à un moment, s'il est envahissant à ce point-là, on n'est plus dans l'amour. Et votre mère n'est pas un nouveau-né dont il faudrait s'occuper H24. Et elle a trop pesé sur votre vie. Et seule, on voit bien, vous êtes empêtrée dans votre culpabilité alors que vous sacrifiez votre vie à votre mère. Donc il faut que vous ayez l'aide d'un psy. Et vous aviez senti ce besoin. Et vous avez eu 3 séances, donc ça veut dire que vous aviez éprouvé le besoin de revenir voir ce thérapeute, que vous aviez besoin de parler, certainement.
Oui.
Et là, me dites-vous, comme il y avait des appels en absence, vous pouviez pas répondre à votre mère, donc le temps de la thérapie, c'était un temps que vous lui accordiez pas. Ben oui, mais c'est un temps que vous vous accordez à vous, Cécile. Et il est temps de vous accorder de la valeur et du temps Ça suffit de subir comme ça. Et je vais vous recommander un livre dont le titre peut-être va un peu vous choquer, mais tant pis. Ça s'appelle « Ces mauvaises mères qu'on aime tant ». C'est de la psychanalyste Gabrielle Rubin, R-U-B-I-N. C'est aux éditions Esneval. Notez-le et lisez-le. Je pense qu'il y a beaucoup de choses qui pourront aussi vous aider à prendre un peu de distance. C'est absolument nécessaire.
J'ai des frissons de vous écouter, comment ça me fait du bien et ça me parle.
Eh bien alors, allez parler. Allez parler et occupez-vous enfin de vous, Cécile. Je vous embrasse.
Merci beaucoup, Caroline. Bonne émission.
Au revoir.
Jusqu'à minuit 30, parlons-nous. Caroline Dublanche sur RTL.
Alors, je reçois des messages là par rapport au livre que j'ai cité. Je vais vous le redonner. Donc, ça s'appelle « Ces mauvaises mères qu'on aime tant ». C'est de Gabrielle Rubin, R-U-B-I-N. Elle est psychanalyste. Et elle, à travers des exemples cliniques de patientes, elle analyse un peu ce lien à la mère qui peut s'avérer extrêmement toxique. Ou finalement, des mères qui, de par leur immaturité, de par leur histoire, il y a toujours des origines à cela, parfois de troubles psychologiques ou psychiatriques, finalement ne permettent pas à l'enfant de prendre leur envol, où l'enfant est comme un médicament, comme une béquille. Enfin, il y a différents cas de figure évoqués. Elle analyse tous les enjeux, tous les ressorts inconscients de cette relation, avec beaucoup de finesse. Et je pense que c'est un livre, il ne faut pas s'arrêter un peu au titre volontairement provocateur, mais qui est un ouvrage qui peut expliquer beaucoup de relations comme ça, qui peuvent être destructrices. On l'entendait d'ailleurs en écoutant Cécile nous parler de sa mère. C'est aux éditions Esneval d'ailleurs. On est ensemble et à vos côtés jusqu'à minuit et demi, c'est Parlons-nous, c'est votre moment. Et si vous désirez dialoguer avec moi, eh bien, il vous suffit d'appeler le 09 69 39 10 11. C'est un numéro de téléphone non surtaxé et c'est le numéro qu'a composé Carla. Bonsoir Carla.
Bonsoir Caroline.
Bonsoir, ravie de vous accueillir.
Ben, moi aussi, contente de vous avoir au téléphone.
Alors, Carla, vous voulez me parler un peu d'une histoire de couple, de votre couple ?
Oui, de ma vie amoureuse, effectivement. Oui. Donc là, depuis le mois d'août, en fait, j'ai rencontré quelqu'un que je connaissais déjà.
Ah oui.
Donc, on était déjà sortis ensemble en début 2020. En fait, mais ça avait été très rapide parce que il était en plein divorce, il n'allait pas bien, il avait d'autres aventures, enfin bref, ça ne me convenait pas, donc ça a duré 2 mois, enfin en fait, c'était assez rapide. Ensuite, moi j'ai eu quelqu'un d'autre dans ma vie, lui en a eu plein d'autres, bon ben, bref, passons. Et puis j'ai déjà appelé d'ailleurs cet été suite à un autre problème que j'avais eu avec un autre garçon. Oui. J'avais eu Sabine pendant votre congé d'été.
Oui, d'accord.
Donc moi, mon histoire avec mon autre ami s'est terminée fin juillet.
Oui.
Et j'ai revu cet homme mi-août parce que j'allais pas très bien. Que lui, je l'avais revu, il avait acheté une maison, il m'avait proposé de venir voir sa maison. Je l'avais trouvé métamorphosé, beaucoup plus serein, beaucoup plus ancré, donc ça m'avait bien plu. J'ai dit c'est bien, je vois que t'es bien maintenant, donc pourquoi pas passer du temps ensemble. Et puis donc c'était mi-août, donc on n'arrivait pas à se voir. Et puis finalement j'ai fait la surprise de débarquer un matin avec les madeleines, un mug, en disant bah, écoute, si t'as du café, moi j'ai tout le reste, donc prenons le petit déjeuner ensemble. Et finalement on a passé le petit déjeuner ensemble, on a passé toute la journée ensemble et c'était vraiment une journée magnifique, enfin une journée complètement improvisée et parfaitement imparfaite.
Il vous plaît beaucoup, cet homme.
Oui, il me plaît beaucoup. Et donc là, il m'apprend ce jour-là qu'il a une amie qui va débarquer 4 jours plus tard. Quelqu'un qu'il a rencontré sur un site de rencontre, parce que c'est quelqu'un qui est habitué donc à ce genre de pratique.
Oui.
Donc là, elle vient de l'étranger, elle vient de loin. Et que donc, comme elle vient de loin, elle va rester 15 jours, c'est-à-dire pendant la durée de ses congés d'été. Bon, ben, je lui ai dit, écoute, si tu penses que c'est ce qu'il y a de mieux pour toi, ben vas-y. Hein. J'ai dit, moi, je ne pouvais pas dire grand-chose d'autre. Hein.
Mais après que vous ayez passé cette journée comme ça ensemble, ou finalement vous avez renoué là, pendant au cours de cette journée,
oui, tout à fait.
Il vous annonce cela.
Oui,
c'est la douche froide.
Il m'annonce ça, et puis en fait, moi je lui réponds, je lui dis, ben écoute, j'ai bien fait de venir, parce que c'est peut-être la dernière fois qu'on se voit. Voilà, moi je l'ai pris comme ça en fait. Vous voyez, je l'ai pris comme ça, et puis il me dit, ben oui, peut-être. Peut-être que c'est la dernière fois. Donc là, il m'explique qu'il a vu une voyante qui lui a expliqué que c'était elle, c'était la femme de sa vie. Que,
elle, voilà. Cette femme-là.
Ouais, ouais.
C'est gentil de vous dire ça, en tout cas.
C'est quelqu'un de très bien. Ah oui, voilà. Oui.
Qu'il n'a jamais rencontré, finalement.
Non.
Mais, d'accord.
Non, non.
Oui, alors que vous, il vous a rencontré, vous venez de passer la journée ensemble, mais la voyante lui dit que c'est elle. Très bien.
Voilà, voilà. Donc la voyante, il l'avait vue une semaine auparavant. Donc moi, je... Alors, pour vous parler de moi, parce que, bon, c'est quand même de moi qu'on parle
bien
ce soir, en fait. Moi, j'ai été gravement malade en 2019. Donc j'ai eu une maladie qui m'a donc empêchée de travailler pendant un an. Donc je me suis battue contre cette maladie et maintenant tout va mieux. Suite à ça, j'ai voulu savoir pourquoi j'étais tombée malade, puisque j'ai quand même, je pense, une qualité de vie assez saine. En tout cas, je fais attention à moi, je fais attention à ce que je mange, à ce que je fais, etc. Et donc, j'ai commencé un travail sur moi. J'ai été aidée d'une psychologue qui m'a beaucoup aidée. Et donc là, j'ai découvert que j'avais des petites choses qui remontaient à l'enfance notamment. Et que dans mes relations avec ma mère et aussi dans mes relations amoureuses, en fait, ça me faisait souvent du mal parce que j'étais... très exigeante envers moi-même et que du coup, mon corps me rappelait à l'ordre de la manière la plus violente qui soit, puisque là, en l'occurrence, ça aurait pu me tuer. Mais enfin, bon, ça ne m'a pas tuée, donc ça m'a rendue plus forte, comme dirait l'autre. J'ai commencé ce travail vraiment intérieur qui m'a fait beaucoup de bien parce que j'ai compris beaucoup de choses. Il y avait des choses que je ressentais sans savoir vraiment mettre des mots dessus et ça m'a aidé aussi dans ma relation avec les autres, ça m'a aidé dans ma relation avec moi-même. Enfin, je pense que j'ai beaucoup avancé en 6 mois et ça, ce cheminement-là, je l'ai fait récemment. C'est-à-dire que, on va dire, ces 6 premiers mois de l'année, si vous voulez. C'est vraiment quelque chose. J'ai fait beaucoup de lectures. J'en ai parlé avec ma psy qui, elle aussi, m'a recommandé des lectures qui m'ont aidé à progresser et à comprendre plein de choses. C'est ce que je lui disais, j'avais l'impression d'ouvrir des clés, d'avoir des clés pour ouvrir des portes et puis que petit à petit, tout prenait sens, en fait. Donc, quand j'ai revu, en fait, cet homme, je savais pourquoi j'allais le revoir. J'avais besoin de lui, je savais qu'il me donnerait tout ce dont j'avais besoin à ce moment-là. Donc ensuite, ça a été effectivement la douche froide quand il m'a annoncé qu'il recevait quelqu'un et que pour lui, c'était la femme de sa vie. Forcément, c'était pas vraiment ce que j'attendais, mais enfin bon, c'était comme ça. Donc je lui ai dit, écoute, si tu penses que c'est la meilleure chose pour toi, ben vas-y. Et puis, tu me raconteras. Parce qu'il était très évasif, hein. Il voulait pas trop en parler. Comme il l'avait jamais rencontré, bien sûr, il savait pas à quoi s'attendre. Enfin bon. Donc moi, pendant 15 jours, ça a été silence radio. J'étais en vacances aussi, une partie. Ensuite, j'ai repris le boulot, donc j'étais très vite débordée. Enfin bref. Et puis, il m'a dit, je reprends le travail le 6 septembre. Donc, tu auras des nouvelles de moi le 6 septembre. J'ai dit, OK, très bien. Et puis, il n'a pas attendu le 6 septembre, le 5. Donc, en rentrant de l'aéroport, une fois qu'il a ramené cette personne à Paris... il m'a appelé. On est resté 2h30 au téléphone pendant qu'il faisait la route, en fait.
Mais avec elle ?
Non, il venait la déposer. Elle rentrait. Elle rentrait au pays.
Ah oui, d'accord. Elle rentrait. D'accord.
Voilà. Donc, il était à nouveau disponible,
d'accord.
Entre guillemets.
Oui.
Voilà. Et donc là, on passe une partie de son trajet du retour à la maison, au téléphone. Il m'explique que bon, ça s'est bien passé, mais il n'était pas complètement satisfait. Ça aurait pu être mieux. Bon... Ben écoute, t'es content ou pas? Enfin, il me dit, ben oui, oui, c'était bien, on a passé de bons moments et tout. Bon, ok. Et donc ça, c'était le week-end, il reprenait le boulot le lundi. Et le mardi, je suis allée le voir chez lui. Et mais bon, j'allais le voir parce qu'il n'arrêtait pas de m'appeler en me disant, allez, viens, je veux te voir et tout. Bon, ben ok, donc je suis allée le voir. Et là, on est ressortis ensemble. Alors, complètement de manière... c'est-à-dire que moi, je suis arrivée, je lui ai fait la bise. Je voulais qu'il me raconte, en fait, ses vacances avec elle. J'y allais plus comme une amie qu'autre chose, en fait.
Mmh.
Vous voyez ?
Oui, oui, je pense pas, mais bon.
Ben, disons que comme...
Non,
oui,
pas...
que je... Ouais. Oui.
Mais je vous laisse poursuivre.
Oui. Et donc, on a continué notre relation. Alors, au début, j'y allais un petit peu avec des pincettes en me disant, bon, je connais la situation, donc voilà. Et puis, finalement, on s'est vus de plus en plus. Et puis, comme ça se passait de mieux en mieux aussi, j'ai dit, ben là, on va faire vraiment comme je le sens, c'est-à-dire vivre le moment présent à fond. Donc, au mois d'octobre, on s'est vu tout le temps, en fait. Donc, je dormais chez lui, il dormait chez moi. On a fait des sorties, je lui ai présenté mes amis, je lui ai présenté ma famille. On a passé donc beaucoup de temps tous les deux et des moments vraiment forts et sympas. Alors, c'était soit festif, mais pas forcément. Hein. Ça pouvait être aussi des soirées... tranquillement en amoureux qui étaient sympas et tout. Mais j'avais toujours... ce problème de lui, en fait, qui recevait des messages donc, de l'étranger, qui répondait même quand j'étais là.
C'est agréable.
Donc ça me perturbait beaucoup. Oui, non, c'est pas agréable du tout, non. Donc, d'ailleurs, je suis retombée malade. Là, j'ai eu un arrêt maladie.
Pour quelqu'un qui apprend à se protéger, dites-moi, avec cet homme, vous ne vous protégez pas du tout, hein.
Non, mais par contre, alors c'est pas facile à expliquer, mais même s'il y a une attirance physique qui est très forte, je me sens avec lui, je sens qu'il y a une connexion qui est autre en fait. Vous voyez, alors je sais pas si ça vient du fait que je suis en plein éveil spirituel, enfin que je suis non. En tout cas... Enfin, que j'essaye de me reconnecter à tout ça. Et en fait, on a partagé des moments, même par rapport à ça, qui étaient vraiment une première pour moi, pour lui aussi d'ailleurs.
C'est-à-dire
C'est-à-dire qu'on a eu des expériences, je sais pas, où on a ressenti des choses, des présences, des choses qui se sont passées, où du coup, on a rencontré des gens qui nous ont permis d'aller mieux, enfin...
Attention de ne pas vous perdre. Hein.
Oui, oui, oui. Mais ces problèmes-là sont... Voilà,
c'est pas en thérapie que vous développez ça? Quel genre de thérapie faites-vous?
Non.
Je me permets de vous dire ça parce que dans les thérapies, vous savez, actuellement, il y aura un sérieux ménage à faire. Hein. Il y a beaucoup de mouvements sectaires qui investissent le domaine du bien-être et je ne sais pas, là... l'expérience, la connexion, l'éveil, les présences, je crains que vous vous perdiez.
D'accord. Mmh. Peut-être, parce que le...
Bon, enfin, vous vous sentez connecté à cet homme.
Oui.
Et aujourd'hui, alors ?
Et alors, aujourd'hui, donc là, j'ai donc été malade, j'ai subi une... petite intervention chirurgicale, donc pas grave, mais enfin très douloureuse, donc qui m'a quand même clouée au lit pendant 8 jours. C'est lui qui est, j'ai été opérée en ambulatoire, c'est lui qui est venu me chercher à l'hôpital. J'étais ensuite très affaiblie, donc il est revenu 2 fois parce que j'avais besoin d'aller à la pharmacie, bon, etc. Et puis ensuite, pendant 10 jours, silence radio, non, j'avais quelques messages, mais beaucoup moins qu'avant. Je ne l'ai pas revu, donc ça c'est la première fois que ça se produit depuis qu'on est à nouveau ensemble. Et ce soir, il m'a fait la surprise de venir me voir à la débauche, donc j'ai trouvé ça cool.
À la quoi ? À la débauche, de quoi ?
Une fois qu'il a fini son travail, en fait, il est passé me voir. Oui,
oui, c'est pour ça que je vous savez, hein, en tant que psy, les mots ont un sens, double sens, triple sens, c'est intéressant.
D'accord.
Oui, bon.
Ben, j'ai pas dit comme ça, Virginie.
Ah oui, mais c'est bon. Donc, c'était la débauche ce soir avec lui, d'accord.
Alors, enfin, c'était pas du tout la
débauche.
Oui,
non, non, je vous taquine.
Voilà, il n'est pas resté très longtemps.
D'accord.
Mais c'est bien qu'il fasse la démarche, en fait. Bon, c'était une surprise qui m'a fait chaud au cœur, donc oui. Voilà. Là, je lui apprends que vendredi, donc, nous sommes invités à une soirée déguisée. On commence à parler du déguisement. Enfin, sympa, quoi. Vous voyez, un moment sympa, court, mais sympa. Il rentre chez lui, donc il me dit « écoute, je te tiens au courant parce que là, il est en train de faire des travaux à la maison et en fonction de quand il fait ses travaux, enfin pour voir comment on organise tout ça. » Et j'envoie un petit message, moi, 2 heures plus tard. Je lui dis « alors c'est bon, t'as calé ça avec ton pote et tout ?» Il me dit « non, je l'ai pas eu encore. » Mais il me dit « je voudrais être totalement transparent avec toi, car là, j'ai mon ami qui revient le 26 décembre et qui va rester au moins 3 mois à la maison pour me voir. »
D'accord.
Bon, alors, voilà. Donc là, c'est le drame, forcément. Alors, c'est le drame. Bon, oui et non, puisque je connaissais la situation et il m'avait dit qu'elle
reviendrait. Le test n'avait pas été très concluant, pourtant, la première fois. J'utilise volontairement ce terme-là, parce que je trouve d'un cynisme cet homme qui vous rappelle, alors qu'il raccompagne cette femme, finalement, pour vous narrer leur relation pendant 15 jours, qui n'était pas si concluante que cela, donc il vous rappelle vous. Et puis là, tiens, elle revient et il vous balance ça à nouveau. Il est odieux avec vous.
Oui. En tout cas, ça m'a fait du mal, bien entendu. Qu'il soit transparent, c'est bien.
Non.
Mais en même temps...
Non, la transparence ne justifie pas de se comporter comme un goujat. Je suis désolée.
Oui.
Ça justifie pas tout. Sous couvert, donc, d'être transparent, on peut balancer des horreurs, on peut blesser l'autre, lui faire du mal. Il ferait mieux de se taire. Et puis, au lieu d'aller consulter des voyantes, lui, il devrait aller voir un psy, peut-être.
Oui, ah ben ça par contre, oui, j'en suis persuadée. Mais bon, il n'en est pas du tout là, lui. Hein,
oui, bah dire écoutez...
Oui. Et donc moi je me dis que bah, déjà je m'en veux beaucoup parce que...
C'est à vous que vous en voulez.
Bah, oui, parce que je
Parce qu'il vous a donné aussi à un moment, tous les signaux étaient au vert. Vous voyez, c'est ça qui est très douloureux pour vous.
Oui.
C'est qu'il est... il est extrêmement insécurisant et très déstabilisant. C'est-à-dire, il y a un moment où, à nouveau, vous vous sentez connecté, je reprends votre expression, donc où vous vous sentez vraiment extrêmement proche de cet homme, et finalement, tout d'un coup, il vous lâche. Il vous lâche et il redevient, là, la déconnexion, elle est brutale, hein.
Elle est brutale,
Vous voyez,
ça c'est moins compliqué.
Et c'est en permanence chaud, froid. Mm-hmm. Et ça c'est extrêmement douloureux et on va en parler ensemble après les infos de minuit, si vous le voulez bien, Carla.
D'accord.
À tout de suite.
Bien sûr, merci.
Jusqu'à minuit 30, parlons-nous. Caroline Dublanc sur RTL.
Problèmes de cœur, problèmes familiaux ou professionnels, je suis là pour vous tous les soirs, pour vous écouter, vous soutenir et vous proposer des solutions pour avancer. Alors je vous invite à appeler pendant une demi-heure encore le standard de Parlons-nous au 09 69 39 10 11 et vous pouvez aussi réagir aux différents témoignages. Alors par SMS au 64 900 code RTL ou encore sur notre page Facebook RTL-parlons-nous. Et on vous retrouve Carla, merci d'avoir patienté. Oui. Alors donc vous nous avez raconté cette rencontre avec un homme là début août, homme qui finalement vous dit qu'il est donc dans une relation virtuelle sur internet avec une femme qui vit à l'étranger qui va venir pendant 15 jours. Cette femme est venue, il la raccompagne à l'aéroport, au retour il vous rappelle, vous vous revoyez et finalement là... Bah, la relation reprend plus fort, plus intense, parce que, au fond, vous, pleine d'espoir, vous vous dites, il y a un rapprochement très important entre vous deux, vous vous dites, bah, voilà, elle est venue, mais elle est repartie, et vous reprenez place dans sa vie, et où finalement, vous vous sentez très en phase avec cet homme. Si ce n'est que là, ce soir en fait.
Oui, ça, ce soir.
Ce soir, il vous annonce...
Il y a deux heures, exactement. Ouais.
Ce soir, il vous annonce donc que cette femme va revenir pour 3 mois, cette fois-ci.
Oui.
Voilà.
Oui.
Il vous l'annonce au téléphone.
Il m'annonce par SMS.
D'accord. Vous avez
donc,
répondu
que je lui...
ou pas
enfin, oui, bien sûr. Je lui ai dit pourquoi ne m'en as-tu parlé, pas parlé alors que tu étais là avec moi ce soir.
Oui.
Et il m'a dit, ça vient de se caler. Donc en gros, il est parti de chez moi à 20h et
oui.
Il s'est calé à 22h.
Bien sûr, bien sûr. Bien et pour sûr. 3 mois, et bien
voilà.
Sûr.
Voilà, oui. Donc ça s'est fait à la dernière minute.
Oui.
Alors ça, c'est quelque chose, quand je vous parlais de mon ressenti et de tout ça, ça c'est quelque chose que moi je ressens, le fait qu'il se soit éloigné ces 10 derniers jours, j'en ai parlé. Alors heureusement que je suis... bien entouré et que j'ai des amis qui sont là pour m'écouter, pour qui le connaissent aussi hein, d'ailleurs.
Et je, puisque vous lui aviez, vous leur avez présenté. Qu'est-ce qu'ils en ont pensé, vos amis?
Ben, ils ont trouvé qu'on formait un beau couple, qu'on était très bien assortis, ils l'ont trouvé super sympa. Bon, en même temps, c'est quelqu'un de bien, enfin, je veux dire, de très gentil, qui est
pas avec vous.
Tout pour moi. Ben là, pas depuis effectivement ces 2 dernières semaines, mais sinon, je peux vous dire que je n'avais rien à me... Enfin, c'était, c'était vraiment une relation...
Il est inconséquent,
c'était,
cet homme.
C'était chouette, quoi. Enfin, c'était...
Oui, mais il est très inconséquent.
Mmh. Mmh.
Il continue les relations, finalement. Dans ce que vous me dites, on peut penser... que il était avec vous, mais il continuait à converser avec elle. Elle n'est pas arrivée comme ça du jour au lendemain. Enfin,
mais non, bien sûr. Mais
et
même
il
moi.
Vous balance ça au dernier moment. Il est, enfin, il sait qu'il vous fait du mal. Il le sait.
Oui, bien sûr.
Il le sait et finalement, il n'a même pas le courage de vous l'annoncer. Enfin. Vous, vous êtes très impliqué et lui, on se demande quel jeu il joue avec vous. En tout cas, il est très insécurisant. Alors, vous m'avez dit que vous aviez un peu... vous m'avez parlé rapidement de quand vous êtes tombée malade, de la relation avec votre mère, qui, quelque chose qui se rejouait dans vos relations amoureuses. Je ne sais pas de quel ordre, ça, à quel niveau ça se rejoue, parce que là, c'est des moments de grande félicité et suivis des moments de rejet. Par moments, il peut être très enveloppant, et à d'autres moments, dans le rejet. Et ça, c'est dévastateur. C'est très douloureux pour tout un chacun, ça. Parce qu'en fait, au moment où vous baissez la garde, où vous baissez toutes les défenses, où vous êtes dans cette demande d'amour, eh bien, le coup tombe. Au moment où vous vous y attendez le moins. C'est dévastateur, ça.
Et alors, justement, alors je m'y attendais, puisque comme je me sens toujours connectée à lui et que je sens les choses venir. Je savais très bien que cette absence d'une dizaine de jours, c'était pour me dire, puisqu'il m'avait déjà dit qu'elle allait revenir, cette fille. Donc, il m'avait même parlé du mois de décembre, d'ailleurs. Donc, voilà. Donc, je savais que... Bon. Bref, et puis, il y avait une échéance, en tout cas, qui allait arriver. Mais... et là, le fait de ne pas arriver à lui parler comme avant, de plus le voir, d'avoir cette communication difficile, alors qu'avant, on s'appelait tout le temps, on s'envoyait des messages tout le temps, et puis que là, j'avais plus trop de nouvelles, en fait, alors que j'étais en plus convalescente. Enfin bon, j'avais besoin, vous voyez, c'était un moment pour moi où j'allais pas très bien et ça tombait mal, en fait. Enfin, ça tombe jamais bien, vous allez me dire, mais bon, là, ça tombait d'autant plus mal. Et donc, je l'ai dit à l'une de mes amis, j'ai dit, tu sais, si je n'ai pas de nouvelles, c'est parce que je suis persuadée qu'il a la date, il sait quand elle revient et il ne sait pas comment me le dire. Donc ça fait déjà une semaine que je le répète régulièrement. Et donc là, quand je l'ai vu arriver avec un grand sourire et tout, j'ai dit, bon, ben, peut-être que je me suis emportée, enfin...
Fait des idées.
Voilà, fait des idées. Et en fait, non, le SMS est arrivé. Puis quand j'ai lu le SMS, donc bon, bien sûr, ça m'a complètement fait mal au cœur. Mais j'ai dit, ça y est, il vient de me cracher le morceau, quoi. En fait, il le sait, je sais qu'il le sait. Il ne savait pas comment me le dire parce qu'il se sentait mal de me le dire et il savait très bien qu'il allait me faire du mal à ce moment-là.
Et vous alors, dans tout
ça ? Ah ben oui.
Parce que lui, c'est une chose, mais vous ?
Eh ben justement, et moi, je fais quoi maintenant ? Parce que franchement, je l'ai fait rentrer dans ma vie. Je lui ai dit, tu sais, enfin, nous deux, je pense que c'est pas juste comme ça. J'ai dit, moi, je nous vois faire un bout de chemin ensemble, et je pense qu'on peut être.
Oui, mais là, vous avez envie de cela, Carla. Hein? Et finalement, quand vous me parlez de cette connexion, vous n'êtes pas connecté du tout aux mêmes choses. Lui, il est connecté au site de rencontre.
Oui,
aux relations avec des femmes qui sont loin, qui peut voir, c'est très bien peut-être pour lui ce type de relation. Elle vient qu'un jour, puis là elle vient un mois ou trois mois, puis elle repart. Finalement, l'attachement, vous voyez, il est assez
éphémère.
Là où vous, finalement, vous devriez, là où vous dire, cette connexion dont vous parlez, elle est pas aussi réciproque que vous le pensez ou que vous voulez le croire. Vous le savez au fond de vous-même, mais vous voulez vous raccrocher à un idéal. Là, vous avez finalement beaucoup investi cette relation. Vous êtes très éprise de cet homme. Donc, vous voulez voir, au fond, comme si vous le compreniez, vous cherchez à décoder, à le comprendre, là où lui heurte votre sensibilité. Et il sait ce qu'il fait.
Oui.
Il sait qu'il vous fait du mal. Et il ne prend aucun gant dans la relation. Et il y a quelque chose dans la façon qu'il a de se comporter vis-à-vis de vous, qui à certains moments est très désobligeante, je trouve.
Oui, oui.
C'est désobligeant, la façon dont il se comporte. Parce qu'il pourrait dire, écoute, j'ai cru, j'ai envie, mais je me sens pas prêt, je suis pas prêt à avoir une relation dans la stabilité. Mais non, finalement, c'est un SMS, elle revient. Donc, enfin, à un moment... Vous me dites justement, vous êtes dans une phase de votre vie où, après avoir été malade, ce qui peut être l'occasion d'une prise de conscience, de vous faites en sorte de prendre soin de vous, de votre corps, de mieux vous alimenter, de retrouver finalement un cadre de vie, quelque chose qui soit plus sain. Mais dans cette relation, vous y allez, vous prenez les coups, vous ne vous protégez pas du tout. Alors peut-être ou non de votre désir à vous, qu'il y ait, que ce soit lui, que ce soit vous, et qu'il y a quelque chose plus fort, et que finalement, mais à quel prix pour vous ? Parce que je pense que vous n'êtes pas du tout connecté aux mêmes choses. Et là où vous parlez avec de la sensibilité, beaucoup d'attachement, une profondeur de cette histoire, lui me semble être sur un registre beaucoup plus cynique.
Différent, parce que déjà, lui ne m'a pas présenté ses amis, ne m'a pas présenté ses parents, enfin voilà. Donc déjà...
Non seulement ça, il ne vous présente pas, mais il vous met en compétition. C'est insupportable. Il y a toujours cette autre femme qui rôde. C'est insupportable. Il vous met, et ça je pense qu'il sait ce qu'il fait. À vous de ne pas accepter ça.
Oui. Oui. Alors ça, c'est la conversation que nous n'avons jamais eue. Mais par contre, je suis quelqu'un de très communicante. Moi, j'ai une vie sociale qui est... heureusement d'ailleurs, qui est bien rempli. J'ai la chance de... j'adore ma vie. Donc, je l'ai fait rentrer dans ma vie pour qu'il voit à quoi ça ressemblait, en fait, d'être avec moi. C'est ce qu'on a fait tout le mois d'octobre, j'ai envie de dire. Et ensuite, j'étais bien consciente qu'il avait un choix à faire et qu'il se pouvait aussi que ce choix ne passe pas par moi, ce qui est le cas aujourd'hui. Mais ce qui est... Enfin, justement, comme je le connais maintenant depuis un petit moment et qu'il s'est aussi confié à moi, j'ai posé des questions pour essayer de comprendre pourquoi il fonctionnait comme ça, pourquoi il a toutes ces aventures.
Arrêtez de vouloir. Je suis désolée, mais Carla, vous êtes pleine de compréhension, d'indulgence pour un homme qui, lui, ne cherche pas à vous comprendre.
Ça, c'est sûr.
Alors, arrêtez. Vous voulez, c'est une façon pour vous, vous voulez, vous êtes en train de lui trouver, presque j'entends, comme des circonstances atténuantes. Et de dire au fond, de chercher à comprendre, de lui trouver. Arrêtez ça. Pourquoi vous, enfin, je veux dire, justement, il y a quelque chose où vous dites, vous cherchez à vous occuper à prendre soin de vous, mais sur le plan amoureux, vous n'y arrivez pas. Bon, c'est comme ça. Pour le moment, vous êtes attiré. Et là, il y a encore quelque chose qui demande à travailler, à être travaillé et qui vous renvoie certainement à quelque chose que vous connaissez de la relation avec votre mère, qu'on va pas développer là puisque vous pouvez le faire dans le cadre de votre thérapie. Mais vous êtes dans quelque chose où à un moment, c'est presque fusion presque mystique, et puis rejet. Il faut travailler ça. Vous voyez, parce que vous, dans les périodes de rejet, bien sûr que vous vous raccrochez à vous dire cet homme, vous cherchez à comprendre pourquoi, comment. Est-ce qu'il cherche à vous comprendre? Est-ce qu'il pense, lui, si vous êtes en train de m'appeler pour parler de lui, est-ce qu'il pense, là, lui, en ce moment, au mal qu'il vous fait?
Non, pas du tout, non. Bon. Enfin, même si peut-être que ce soir, il dormira un petit peu moins bien parce qu'il m'a enfin lâché le message. Oh, mais par contre...
Ça l'empêche pas de revenir sur sa... Vous voyez, l'autre va arriver. Enfin, voyez le jeu qu'il mène. Puis qu'est-ce que c'est, ça, de vous mettre en compétition avec une autre femme, en rivalité? Il a besoin, lui, pour être au centre, pour exister? Vous voyez quand même mieux que ça, non?
Oui.
Que d'être finalement toujours passé en deuxième choix? Qu'est-ce que c'est que cette histoire-là? Prendre soin de vous, c'est aussi finalement vous estimer. C'est aussi ça.
Oui.
Vous estimer. Et là, cet homme, par moment, et je trouve, vous déconsidère. Mais pas seulement vous, je pense. Les femmes en général. Il a, c'est son problème à lui, pas un attachement. Vous voyez, c'est pas un hasard, l'étranger, des femmes qui viennent mais qui repartent. Peut-être que lui, ça lui convient. Mais est-ce que ça vous convient à vous, ça?
Ah bah pas du tout, non.
Je vais vous lire des relations. Il y a Bambi qui dit, cette connexion dont vous parlez, Carla, elle n'est pas juste mystique, c'est juste que vous voyez clair dans son jeu, sans vouloir vous l'avouer. Oui, vous sentez des choses, vous êtes très, très intuitive aussi. Oui, vous êtes très intuitive. Mais lui, il n'est pas fiable. Il y a Louisa qui dit, d'ailleurs, vous vous retrouvez en compétition, mise en compétition avec une autre femme. Il entretient cette possibilité que vous gagnez, qu'il vous choisisse, vous. Vous voyez, qu'est-ce que... C'est là où c'est pernicieux. Mais c'est douloureux, au final, pour vous. Il y a Evelyne de Lisieux qui dit, il semblerait, malheureusement, que les sentiments de cet homme ne soient pas aussi au diapason, aussi réciproque. Il faut prendre soin de vous. Alors, il y a Bob le timide qui dit, moi, il me semble assez manipulateur. Respectez-vous, vous, dans cette histoire. Il y a Florence, elle y va carrément, mais elle dit, je la comprends, elle dit, c'est un mufle. Il changera pas. J'ai connu ce même genre d'énergumène. Lâchez l'affaire. Et au fond, attention, parce que c'est dévalorisant pour vous, cette histoire.
Oui.
D'autres réactions, Paul, sur Facebook?
Oui, et des réactions qui ne sont pas forcément tendres. Il y a Delphine qui dit « Ah, ça fait très New Age, cette histoire. » En tout cas, c'est une relation qui a le goût de la destruction pour vous. Je me demande si cet homme ne serait pas un peu manipulateur, avec un petit côté un peu pervers. En tout cas, à la lumière de l'épreuve que vous avez subie au travers de votre maladie, je pense que cette relation ne vous fait pas de bien, elle vous fait plus de mal que de bien. Il y a France qui dit « Oh là là, vous êtes tombé dans un piège amoureux terrible. » Maggie qui dit « Ce n'est pas vivable, ça ne peut que vous rendre malheureuse. Changez de trottoir, si j'ose dire. Soyez prudente. » Il y a le valet de cœur qui voulait vous dire « Pardonnez-moi cette question, mais à sa prochaine visite chez une voyante, votre avenir va-t-il être encore mis entre parenthèses ?» Je trouve que vous devriez vous respecter davantage devant ce séducteur malveillant. Il dit « Moi, à titre personnel, j'ai une démarche spirituelle et à aucun moment je ne m'en sers comme d'une arme pour obtenir quoi que ce soit, sans quoi cela s'appelle de la manipulation. Cet homme est tout sauf spirituel, c'est un opportuniste malveillant. » Il y a aussi Cornelia qui dit « Finalement, cet homme, il joue sur deux tableaux, et moi, à votre place, je ne supporterais pas d'être dans sa vie en sachant qu'il va accueillir de nouveau cette femme rencontrée sur Internet. C'est assez confortable pour lui, il navigue entre vous et elle. À vous de savoir si vous acceptez de souffrir. » Il y a Caroline qui dit « Cet homme se joue de vous, fuit oubliez-le au plus vite. Il prend, il jette. Il y a aussi, alors c'est un terme qu'a utilisé Moon ou Maryse. Marie, plusieurs personnes l'ont utilisé. Il s'intéresse à vous que quand il est seul. Vous êtes presque un peu une roue de secours pour lui.
C'est un séducteur, certainement. Il aime séduire, oui. Il sait séduire, il sait plaire, il sait comment plaire, il sait se faire aimer, oui. Il a l'air assez charismatique. Mais finalement, il y a une dimension, semble-t-il, assez narcissique, qui fait qu'à un moment, là où vous faites preuve de beaucoup d'empathie, lui en manifeste très peu, en tout cas vis-à-vis de vous, et même vis-à-vis de cette autre femme d'ailleurs. C'est ce que dit l'homme aux camélias. Il dit, au fond, les femmes ne sont-elles pas que les faire-valoir de cet homme qui ne vous mérite pas plus qu'il ne mérite l'autre femme. C'est à vous d'apprendre à vous estimer. Je pense qu'il y a quelque chose d'un attachement très insécure qui se rejoue, qui vous renvoie à votre histoire, et que c'est là-dessus qu'il faudrait continuer à travailler, car là, pour vous protéger, moins souffrir.
Oui, alors que moi, j'ai besoin d'être rassurée, justement. Donc là, il m'a prouvé tout l'inverse.
Il ne l'est pas.
Et que maintenant, je me trouve dans une position où, franchement, je ne sais pas comment réagir. C'est-à-dire que ce qu'il m'a dit, c'est bien sûr que ça me fait mal, mais en même temps, je connaissais la situation, donc je me retrouve un petit peu...
Non. Là, Carla, et on va conclure là-dessus. Non, justement, vous n'êtes pas assez en colère. Vous êtes encore prêt à lui passer tout, à cet homme. Alors, vous connaissiez la situation. À un moment, vous vous étiez beaucoup rapprochés et vous pouviez penser que cette autre femme, il n'était plus en lien avec elle. Là, la mise à distance, et notamment lorsque vous avez été hospitalisée, et c'est pas rien, il n'était pas là. Vous a fait commencer à douter, les peurs sont revenues et vous dire que au fond, il était peut-être à nouveau connecté à d'autres femmes et malheureusement ça s'est confirmé. Donc là c'est votre côté intuitif, il avait changé, il était différent. Mais la phase où vous vous êtes rapproché, il a laissé entrevoir des possibilités. Vous n'avez pas rêvé toute seule, il vous a fait rêver aussi à cette histoire. Et c'est là où il est décevant, très insécurisant et pas fiable. Mais il va venir vous rechercher parce qu'il a besoin certainement d'avoir une cour autour de lui. Et attention de ne pas en faire partie. Et que finalement, au lieu d'essayer de le comprendre lui, penchez-vous sur vos propres difficultés dans cette... Finalement, qu'est-ce qui fait que vous allez vers un homme alors que vous cherchez la sécurité affective qui peut être tout aussi enveloppant que rejetant? Et ça, c'est terrible. Donc attention, ne vous remettez pas dans une situation qui est périlleuse pour vous.
Oui.
Prenez soin de vous, Carla.
Prenez le lien. Oui, d'accord.
Au revoir Carla, bonne soirée.
Merci
bon
beaucoup,
courage.
Caroline, bonne soirée, merci, au revoir.
Parlons-nous, Caroline Dublanc sur RTL.
Cécile qui nous parlait de sa fibromyalgie et surtout de ce lien à sa mère, ce lien qui traduisait une très grande dépendance. On voit à quel point son corps s'exprimait. Et puis Carla qui parlait de cette relation finalement... cet homme dont elle est éperdument éprise, mais ce lien aussi qui l'a fait souffrir, et le corps aussi. Le corps de Carla qui s'exprime, ça montre à quel point les symptômes sont un langage. Langage qu'il est important de savoir décoder, parce que bien souvent, le corps exprime une souffrance qui ne peut pas encore être pensée, et encore moins verbalisée. Donc, il est précieux, notre corps. Il faut en prendre soin et écouter aussi les signaux qu'il nous envoie, ce qu'il perçoit d'une souffrance intérieure. Et en cela, les deux témoignages, aussi bien de Cécile, de Carla, étaient très éclairants. Merci. D'ailleurs, il y a l'homme aux camélias qui dit « Votre hospitalisation, Carla, était une épreuve qu'il n'a pas remportée. Game over. À vous la liberté. » Totalement d'accord. Je vous embrasse, je vous souhaite une très belle nuit et puis on sera de retour bien sûr ce soir sur RTL. Parlons-nous dès 22h.